Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on recoupe. Aujourd'hui, on retrouve Alerte Météo Terre avec un bulletin orageux. Alors qu'il y a une semaine, nous étions les pieds dans l'eau, nous voilà ces jours-ci sous un soleil presque trop chaud. Allons-nous de pluies diluviennes en été caniculaire, ou bien reste-t-il un printemps à sauver? Comme souvent, c'est dans le collectif que quelques réponses semblent se trouver.
Terre. Alerte météo terre.
Alerte météo terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo terre.
L'émission brodarde les pieds par terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer.
Petite histoire et grande question.
Et sur terre.
Alerte.
Alerte, météo terre. Alerte, météo terre. Ha, ha, ha.
Tout à l'heure au salon, on buvait des bières en terrasse. Et puis on se disait, ça fait du bien d'avoir du soleil.
Tout le monde se dit ça, ouais.
Mais tout le monde, ouais. Oui, mais même moi. Mais en réalité, il y avait la plupart des arboriculteurs, des maraîchers, des viticulteurs qui disaient, bah, je bois ma bière en terrasse, mais j'ai un peu la gorge nouée.
Et oui.
Parce qu'en réalité, ce qu'on vit, c'est un faux printemps. Un faux printemps, c'est une période de douceur qui réveille les végétaux trop tôt. Et plus les végétaux se développent au mois de février, de mars, plus ils sont sensibles au gel. Et l'un des marqueurs du changement climatique, c'est pas juste la température qui augmente. C'est aussi les dates de floraison qui avancent. On a gagné 20 à 25 jours sur les dates de floraison, tout comme les vendanges d'ailleurs, tout comme les moissons au passage, tout comme la mise en herbe de certains animaux dans le nord-ouest de la France. On gagne des semaines et ça, c'est un des marqueurs du changement climatique.
Il y a pile 3 ans, en février 2023, je m'étonnais en introduction d'émission d'être en t-shirt et de voir les bourgeons sur les arbres, et ce après un mois sans une goutte de pluie. En 2026, me voilà dans la même situation d'enregistrement. Mais cette fois, après des semaines de pluie, de tempêtes et des inondations à travers tout le pays. On s'autorise donc une joyeuse pause pour sécher au soleil, même si, comme le dit Serge Zaka, 29 degrés en février, ça fait cogiter. Allons-nous de pluie diluvienne en aride canicule, ou bien est-ce que l'on peut éponger le dégât et croire en l'éclaircie après l'orage estival? Pronostic météo en cours.
Quand on parle des extrêmes et des aléas climatiques, on voit qu'on en a beaucoup. Donc il y a effectivement les fortes chaleurs, avec une augmentation très très forte des canicules. Alors là, l'augmentation, elle va être en durée, en intensité et en fréquence. On voit que les 10 dernières années, il y a eu énormément de canicules, voire 1, 2, 3 par an. Elles sont de plus en plus précoces, de plus en plus tardives. D'ailleurs, la question, c'est plus de savoir si on aura une canicule l'été prochain, c'est de savoir combien... Quelle sera son intensité, quelles sont ses durées. La canicule n'est quasiment plus, en tant que telle, un événement extrême. Ça devient un événement courant. C'est ses caractéristiques qui deviennent de plus en plus extrêmes. Donc les canicules, les vagues de chaleur. Mais après, il y a aussi les épisodes de précipitations extrêmes. Donc là, ce n'est pas forcément la fréquence des épisodes méditerranéens qui est en augmentation. Ça va être la fréquence des épisodes les plus intenses. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément plus de phénomènes de pluie intense, c'est une caractéristique de notre climat méditerranéen, mais par contre, ils ont tendance à devenir de plus en plus intenses. Et Météo France montre que sur l'arc méditerranéen depuis les années 60, il y a à peu près, il y a environ, alors avec beaucoup d'incertitudes, hein, une augmentation de 15% de l'augmentation de l'intensité des épisodes méditerranéens. Donc, et puis avec des épisodes, des quantités de pluie qui ont tendance à tomber sur des temps beaucoup plus courts. On a vu là, je crois que c'était au printemps dernier ou il y a un an et demi, plusieurs fois dans le Var, plus de 100 mm de précipitations qui tombent en moins de 30 minutes. Donc, ce qui fait des sommes énormes qui tombent au même moment et donc avec des conséquences en termes de ruissellement, selon où ça tombe, qui sont très importantes. Après, d'autres phénomènes, il y a aussi les incendies extrêmes. Les très fortes chaleurs renforcent le risque incendie. Donc on a de plus en plus un risque d'incendie et d'incendie extrême, ça veut dire des feux liés à la chaleur qui sont plus difficiles à combattre, qui ont un comportement un peu différent. Le risque augmente beaucoup. Alors pas forcément sur toute la région, mais en tout cas sur toute la région avec les caractéristiques les plus méditerranéennes, on voit le risque d'incendie qui explose, et notamment de feux extrêmes. Sur les autres parties de la région, même en montagne, on voit une durée du risque incendie qui augmente, et donc avec un risque incendie en fait, qui augmente un peu partout. Autre point, ça va être les phénomènes de sécheresse qui ne sont pas liés que aux précipitations. On a beaucoup d'incertitudes sur les précipitations, mais elles sont liées à la variabilité des précipitations et aussi à la forte hausse des températures. C'est-à-dire que les années les plus sèches, en termes de où on observe le moins de pluie, les conséquences en termes de sécheresse sont beaucoup plus importantes aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup plus chaud qu'il y a une centaine d'années, par exemple. Donc une sécheresse, très très peu de pluie en 1917, je crois qu'il y a eu un épisode comme ça, et très peu de pluie en 2022, c'est pas du tout les mêmes conséquences, même avec des quantités similaires, parce qu'aujourd'hui il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus d'évapotranspiration, donc d'évaporation de la pluie, donc beaucoup moins de réserves utiles, beaucoup plus de besoins aussi, donc avec des prélèvements en eau beaucoup plus importants. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les années de très faibles précipitations vont avoir des sécheresses beaucoup plus importantes, et le moteur, c'est beaucoup aussi les températures aujourd'hui. Donc Antoine Nico, moi je suis directeur du GREC Sud, c'est le groupe régional d'experts sur le climat. C'est une association dont les activités sont inspirées de celles du GIEC, mais à l'échelle régionale, donc groupe régional d'experts sur le climat. L'objectif, c'est de centraliser les connaissances sur le changement climatique et les mettre à disposition des acteurs du territoire pour faciliter, renforcer la transition écologique en amenant les connaissances et qui seront là pour faciliter la prise de décision finalement. Le fond de notre travail, c'est de territorialiser les enjeux climatiques. Donc, on va travailler sur les trajectoires climatiques. On essaie de voir au niveau local quelles sont les évolutions climatiques et comment on peut les traduire en termes d'impact sur les écosystèmes, sur les activités socio-économiques et sur sur la santé, le bien-être des habitants. Puis après, on va voir comment on peut mobiliser les grands groupes de solutions pour faire face à ça et les intégrer dans des stratégies territoriales de transition écologique. Dans les trajectoires climatiques, bien sûr, il y a les températures. On va étudier celles qui sont observées, puis les trajectoires futures. Il y a les précipitations et il y a toutes les conséquences d'évolution en termes d'aléas climatiques. Là, il pleut énormément, il neige énormément. On est dans des contextes météorologiques particuliers. Alors peut-être qu'effectivement, le changement climatique fait que les quantités de pluie qui tombent sont un peu plus importantes. Mais par contre, le nombre de jours de pluie qu'on a eu, lui, ne dépend pas forcément du changement climatique. Par contre, le fait que pendant ces périodes de très fortes pluies, les pluies soient un peu plus importantes, ça peut dépendre du changement climatique. Ça peut jouer sur certaines caractéristiques de la météorologie. Donc oui, c'est très complexe. En même temps, je pense que tout le monde aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible, effectivement, en termes de population, au coup de boutoir de changement climatique. C'est-à-dire un épisode méditerranéen, ça va nous rappeler, s'il est intense et s'il fait particulièrement des dégâts, ça va nous rappeler que le climat peut changer et peut avoir des choses comme ça. Des canicules, on va s'en rappeler, ça nous rappelle. Par contre, ça ne nous remet pas dans le vrai contexte des tendances. La vraie tendance du changement climatique, c'est que chaque année, il va faire un peu plus chaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étés qu'on a aujourd'hui, la probabilité qu'ils soient similaires ou plus frais que les étés des années 80, elle est quasiment nulle. Ça veut dire qu'on n'aura jamais un été qui sera dans la moyenne des années 80 ou plus frais que ceux des années 80. Donc les étés de mes enfants, on n'en parle plus, ils sont forcément beaucoup plus chauds. La tendance est là et elle est très importante. Donc effectivement, on la ressent moins cette tendance parce qu'elle est progressive et qu'elle est, en plus d'être progressive, elle est associée à une forte variabilité, donc qui fait qu'à un moment, oui, il va faire frais, il va faire chaud, donc on le ressent encore un petit peu moins. Et on a quand même effectivement des événements météorologiques qui nous rappellent, malgré tout, dans leur fréquence de plus en plus importante et dans leur intensité de plus en plus importante, que le changement climatique est là.
Je m'appelle Emma, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et à cause de la canicule, un soir, il y a eu un très gros orage avec beaucoup de grêlons, très gros, aussi gros que des balles de pétanque. Non.
Si, je sais pas, golf, pétanque.
Golf. Aussi gros que des balles de golf. J'ai cru au début qu'il y avait des gens qui tiraient sur notre maison. On a entendu bah, 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 des gros coups tapés sur nos volets. Et on avait très peur parce que ça s'arrêtait pas. Du coup, on est descendu, on voyait nos parents courir dans tous les sens, fermer tous les stores parce que sinon... sinon, on n'aurait plus de vitres, plus de fenêtres, plus de portes. Et maman, à la porte de la porte d'entrée, il n'y a pas de volet, rien. Maman, elle est en train de tenir la fenêtre de la porte pour pas qu'elle tombe. Elle avait peur que ça tombe. Après, même mes parents, ils ont eu peur. Je pense qu'ils ont pleuré parce que, vu l'état du jardin, ils ont pris beaucoup de temps pour le jardin, pour le potager, on n'a plus rien. Mais ça a quand même repoussé, mais c'était triste. Et même dans le jardin, dans l'herbe, il y avait des creux à cause des grêlons. Et la vache qui était sur le potager parce que... Maman en avait marre de retourner le potager tout le temps, ce qui est normal. Et il y a des gros trous alors qu'elle est posée au sol. Et j'ai plus de toboggan. La grêle a quand même réussi à casser mon toboggan, donc c'est très très fort. On n'a plus de voiture non plus. Il y a des gros impacts sur la voiture de papa, des grosses bosses. Enfin, c'est...
Ça a cassé le pare-brise.
Oui, le pare-brise arrière de la voiture. Et le lendemain, on est allé à l'école, même si malgré les dégâts, on a vu l'état de l'école. Il y avait plein d'oiseaux morts par terre. Les arbres, il n'y avait plus de feuilles dessus. Il y en avait partout dans la cour. Et à cause du vent aussi et des grêlons, il y a un arbre qui a failli tomber. Et quand on est rentré dans la classe, il y avait des cartons avec de l'eau dedans. Enfin, l'eau avait coulé dans les cartons. Et il y avait des livres qui avaient moisi. On n'était que deux avec ma meilleure amie. On n'était que deux dans la classe. Et on a aidé la maîtresse à enlever les cartons qui étaient mouillés. C'était triste. Et le midi, la cantine était cassée. On nous a préparé un sandwich et toute l'école, tous ceux qui étaient là, étaient dans notre classe à part les petits jusqu'en CP. En tout, on était 24, je pense, enfants. C'était très triste et puis les maîtresses aussi, elles étaient tristes. Il y en a qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas pu venir. Et il y en a qui ont de la chance, qui n'ont pas eu de grêle. Juste une tempête. Et puis aussi, l'après-midi, quand j'étais dans la classe, en CM2, y a une amie qui est venue et elle m'a dit que qu'elle avait plus de maison. Elle m'a dit qu'il y avait eu tellement de fuites dans sa maison que son plafond a moisi et tombé. Du coup, elle a plus de maison et sa grand-mère qui habite juste à côté, maintenant ils vivent là-bas le temps de réparer les dégâts. Et ils ont sauvé des choses à temps, mais sinon, ils ont quasiment plus rien.
Toi, t'as eu peur, non?
Oui, très très peur. Avec Owen, avec mon frère, on a pleuré. Et mon papa, il est charpentier. Et ça le rend très triste de voir tous les gens qui doivent avoir le toit bâché à cause des grêlons, parce qu'il y en a... Il y a beaucoup de fuites dans les maisons et il y a des tuiles qui sont cassées. Et du coup, papa, il doit bâcher des toits. Et déjà, il y a beaucoup de travail et ça le rend triste de voir les gens, comment ils sont tristes. C'est triste de voir tous ces gens qui ont vécu ça et qui ont plein de fuites dans leur maison. Et aussi, on savait pas vraiment comment réagir. Voilà.
On a des chercheurs qui travaillent sur les systèmes d'alerte et sur la perception de ces phénomènes par les habitants. Eux, ils peuvent travailler aussi, apporter des connaissances pour travailler sur, d'une part, la sensibilisation et l'acculturation des habitants et des entreprises vis-à-vis de ces phénomènes, pour pouvoir prévenir à temps les habitants. Pouvoir aussi travailler sur la gestion de crise, c'est-à-dire que la gestion de crise aussi doit se réinventer. Effectivement, on veut essayer de minimiser ces crises, l'impact de ces crises, mais on sait très bien que, vu l'évolution du climat, il va avoir des crises et qu'elles seront encore plus importantes. Donc l'idée, nous, c'est pas de travailler sur cet événement-là, c'est peut-être de s'appuyer dessus comme exemple, mais c'est surtout de montrer qu'aujourd'hui, il faut même la gestion de crise la réinventer pendant la crise et la gestion post-crise, aussi bien dans l'accompagnement des collectivités, des habitants, dans la reconstruction, est-ce qu'on reconstruit à l'identique, est-ce qu'on reconstruit différemment. Comment après des événements comme cela, on travaille, on suit les habitants qui ont été touchés, comment on travaille sur la santé mentale de ces habitants pour pas qu'il y ait des stress post-traumatiques qui, à terme, se transforment en dépression chronique ou sévère. Donc voilà, c'est tout un enjeu de repenser la façon dont on gère le territoire en amont des crises et après, pendant et après les crises. Voilà, ça c'est notre rôle. Ce qu'il faut en fait pour arriver à mettre en place des solutions, alors il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui, il y a des leviers, si on prend l'agence de l'eau, aujourd'hui il y a des financements spécifiques auxquels les collectivités peuvent répondre pour désimperméabiliser et végétaliser les cours d'école. Donc ça va avoir des effets directs sur l'eau, le ruissellement, sur la santé des élèves, la végétalisation. Donc voilà, ça c'est des actions. On sait qu'on peut les mettre en place. Il y a des appels à projets de certaines institutions, là, de l'agence de l'eau. Donc les collectivités vont y répondre. Les solutions, elles existent. Certaines sont déjà financées et finançables de pas mal de côtés. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est les mettre en musique. Et c'est ça qui est compliqué. C'est de définir cette stratégie. Elle est profondément transsectorielle. On ne sait pas trop travailler en transsectorialité. Elle demande de l'intelligence collective, elle demande de l'intégration de connaissances scientifiques, elle demande d'avoir un socle commun de connaissances pour pouvoir échanger ensemble, ça veut dire être sûr de nos connaissances. Et donc c'est tout cet aspect-là qui est plutôt organisationnel, qui demande aussi des espaces de dialogue, des espaces démocratiques, qui est assez compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui. Et c'est dans cet espace-là que nous, on essaye d'amener des connaissances, on essaye de mobiliser... l'ensemble des acteurs du territoire et des habitants du territoire autour de ces sujets pour qu'ensuite, après, effectivement, ils puissent mettre en œuvre des politiques publiques. Je pense que les gros manques aujourd'hui, ils sont plutôt en termes de connaissances, de formation, de ressources humaines et d'organisation. Et ça, c'est le plus compliqué. Et on sait que c'est le plus compliqué un peu plus dur à financer, parce que c'est assez expérimental. Comment on change ces systèmes-là? Comment, en fait, quand on va avoir des financements, on associe à ces initiatives des indicateurs? Tant de gens mobilisés, c'est assez expérimental, finalement, on travaille sur le fond. Et c'est un peu plus dur, ça, à faire financer, c'est un peu plus dur à mettre en œuvre. C'est ambitieux, mais en même temps, je pense que c'est un des sujets sur lequel on doit se renforcer.
Du Prado qui font bouger mon micro.
Paul Marquis, météorologue indépendant. Donc ça a commencé il y a maintenant près de 26 ans. Donc c'était en septembre 2000. Il y a eu un très gros orage à Marseille, l'orage du siècle, qui a du coup donné quasiment 6 mois de précipitation en seulement 3 heures. Donc forcément beaucoup de dégâts, malheureusement 2 victimes dans la ville. Donc ça m'a, à l'époque j'avais que 9 ans. Donc ça m'a traumatisé. De ce trauma, j'en ai fait vraiment une passion. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était météorologie, d'abord par des livres, grâce aussi à Internet. C'était le début des forums météo. Donc d'autres gens comme moi qui sont passionnés, on a beaucoup en France qui font ça. Donc grâce à d'autres personnes, j'ai effectivement pu apprendre comment marchent les nuages. J'ai acheté beaucoup de livres, j'ai aussi vu beaucoup de reportages. Donc c'est vraiment de manière autodidacte que je me suis formé. Après, de fil en aiguille, donc dans ma scolarité, donc, j'ai commencé à faire des prisons météo, ben, d'abord pour moi-même, ensuite pour ma famille. Donc c'est vrai que j'étais à l'époque en primaire, collège, c'était le tout début. Donc chaque récréation, j'allais sur ordinateur pour aller voir un peu les modèles météo. Donc c'est toujours une passion qui m'animait ben, de plus en plus. Après, effectivement, arrivé au lycée, il a neigé à Marseille, donc c'était en 2009, il y a près de 30 cm de neige, donc effectivement, c'était pas forcément prévu par les services de Météo France. À contre moi, du coup, j'avais anticipé le phénomène, donc j'avais dit à mes collègues et les professeurs, attention, demain, il y aura beaucoup de neige, donc il n'y aura pas forcément cours. Donc effectivement, de là est partie un peu ma réputation, et effectivement, donc j'en ai fait vraiment une passion à temps plein, et du coup, bah, j'ai créé mon entreprise il y a maintenant près de 10 ans, donc on travaille avec beaucoup de clients dans toute la France, dans toute la région PACA, donc c'est vraiment une histoire qui a commencé il y a 26 ans, et qui continue de s'écrire encore aujourd'hui.
Je vais juste faire re-raconter le souvenir de la meilleure photo. Oui.
En fait, du coup, c'était effectivement en septembre 2018. Donc, il y a un orage qui est arrivé effectivement depuis la zone de Fos-sur-Mer, donc du coup plus à l'ouest. Donc, l'orage est arrivé sur Marseille. Il y avait beaucoup de pluie. Et, du coup, derrière l'orage, ben, on voyait bien les éclairs. Du coup, je suis parti, c'était en pleine nuit, il était 4-5 heures du matin. Donc, je pars de chez moi, je prends ma voiture, j'arrive effectivement du côté du plage du Prado, ce qu'on est aussi aujourd'hui avec la grande roue. Moi, du coup, je me suis mis derrière la grande roue. Enfin, du coup, la grande roue en premier plan. En second plan, l'orage. Et là, du coup, il y a un impact qui est tombé. Donc, il y avait deux impacts qui sont tombés, deux impacts de foudre. Donc, ils sont tombés derrière la grande roue. Donc, ils ont donné une très très belle photo, effectivement, qui m'a vraiment illuminé l'appareil photo. Du coup, j'étais trempé. J'avais froid, j'avais faim. Mais j'avais la photo que j'attendais depuis 10 ans. Donc, c'est vrai que j'ai mis du temps à la faire. Mais j'ai persévéré, j'ai patienté. Et ce jour-là, du coup, j'étais vraiment content parce que j'avais eu la photo que j'attendais depuis maintenant près de 10 ans. Ouais.
Et vous avez déjà eu peur?
Oui, plusieurs fois, effectivement, ça m'est arrivé malgré tous les mesures de précaution qu'on prend. C'était du côté de Salon-de-Provence, donc j'étais parti en chasse à l'orage au sommet d'une colline. Donc l'orage était quand même assez loin. Du coup, j'étais dans la voiture s'est mise à trembler et du coup, l'impact est tombé à environ 10 mètres de la voiture. Vraiment, ça s'est mis à trembler. L'orage était pourtant assez loin, à environ peut-être 800-900 mètres, donc c'est quand même une bonne distance. Malgré tout, l'orage est tombé à côté de moi, donc l'impact est tombé sur la voiture, juste à côté. Donc ça a tout a tremblé, tout a résonné et ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment fait peur. Donc ça m'a arrêté peut-être 2-3 fois de me faire peur à ce point-là, quoi.
Vous parliez du fait d'être en équipe. C'est pas... Moi, j'imaginais ça comme très solitaire.
Ah oui, en fait, du coup, il y a un peu de côté. Effectivement, moi, je suis chasseur solitaire et chasseur aussi en équipe. Donc des fois, en fait, quand les orages... Quand c'est une migration qui est prévue à l'avance, on s'organise ensemble, donc on sait que en 4 jours on peut s'organiser et faire une chasse à l'orage. Donc là on part, on est une équipe de 5-6 dans les Bouches-du-Rhône. Donc en fait quand c'est prévu à l'avance, là on s'organise. Mais des fois les orages ça arrive un peu sans prévenir, ou des fois c'est plus fort que prévu ou ça se décale. Là du coup bah, je pars sans prévenir un peu dans la nuit ou des fois je laisse femme et enfant pour partir, ça peut m'arriver. À la fois c'est vrai que c'est bien parce que c'est souvent ce qu'on aime bien faire tout seul. Mais c'est aussi bien de partir ça parce qu'on rigole beaucoup. Parfois, c'est de longueur d'attente. Donc, patienter en équipe, c'est moins long que d'être tout seul. Quoi.
Bah, alors, la question du risque d'inondation, bah, quand on parle de changement climatique, hein, je crois que c'est une des premières questions qui a été appréhendée malgré tout, alors par tous les syndicats de bassins versants qui travaillent dessus, par les collectivités hein, qui sont responsables des plans de plans risque incendie, là, des PAPI, des PPRI et des choses comme ça. De plus en plus, il y a une prise de conscience et c'est là où aussi elle peut dépasser justement le bord politique. Donc là, ça va être sur l'aménagement du territoire, essayer de désartificialiser certaines zones, en protéger forcément certaines autres parce qu'on ne pourra pas faire autrement, faire du repli stratégique, relocaliser certaines infrastructures, certaines habitations, certaines infrastructures parce qu'elles sont aujourd'hui trop exposées. Donc voilà, tout ça doit se mettre en œuvre. Ça commence à se mettre en œuvre, rétablir hein, des zones humides, en tout cas surtout, arrêter de détruire les zones humides, les zones de rétention. Rétablir certaines des zones d'expansion qui vont servir de zones d'expansion de crues qui vont servir à aussi absorber une grande partie des précipitations. Donc ça, je pense que ça commence à être... Il y a de plus en plus d'études dessus, en tout cas. Il y a de plus en plus de connaissances. Ça permet d'avoir des cartographies de territoire de plus en plus précises pour aujourd'hui et demain. Et donc là, à partir de là, pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça avance. Pas assez vite. Peut-être pas encore assez de précautions, mais ça avance. Et effectivement, parce que ça va avoir des enjeux économiques. D'ailleurs, c'est pour ça que le changement climatique au niveau territorial est important, parce que c'est des vrais enjeux économiques, et on le voit tous les jours. Et on le voit, les territoires touchés commencent à avoir de plus en plus, suite à des catastrophes, de difficultés à trouver des compagnies d'assurance qui veulent bien les assurer. C'est le cas de la Vallée de la Tinée, de la Roya, etc. Donc, il y a un vrai enjeu économique. Est-ce que les entreprises vont rester sur le territoire? Est-ce que le territoire va toujours être attractif? Est-ce qu'il n'est pas trop soumis au risque d'inondation dans ces zones artisanales, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas trop soumis au risque incendie? Est-ce que les vagues de chaleur, on va pouvoir les gérer? Voilà, il y a plein de questions qui se posent comme ça. Les gens se posent vraiment ces questions. Et donc ça, c'est l'économie des territoires demain. Et c'est la santé des habitants. Et quand une entreprise est sur un territoire, elle n'y est pas pour rien. Elle y est là depuis ou de façon historique, ou parce qu'il y a un cadre de vie qui permet d'attirer des salariés, ou parce qu'il y a des ressources pas loin. Et tout ça, il faut arriver à le prendre en compte. Et donc, il y a un vrai enjeu économique. Et ça, les entreprises commencent à le percevoir. Les collectivités qui ont besoin des entreprises sur leur territoire commencent à le percevoir. Et donc, c'est pour ça que la question du changement climatique, elle est là. Aujourd'hui, elle est prenante. Il y avait un exemple, hein, c'est Valence en Espagne, où il y a eu plus d'une centaine de morts, je crois. Épisode méditerranéen remarquable, effectivement, hein, très intense, qui tombe sur un territoire fortement artificialisé. Donc là, il y a eu énormément de ruissellement, donc avec des gros dégâts en termes d'infrastructures. Donc ça, c'est l'artificialisation, hein, qui fait que ça renforce les phénomènes de ruissellement, donc augmente les dégâts. Il y a eu beaucoup de victimes parce que le système d'alerte n'était pas au point, n'était pas efficace. Et là, c'était directement lié au gouvernement local qu'il avait un peu laissé de côté parce que ce n'était pas dans ses prérogatives. Et donc, en fait, on a eu trois phénomènes. Un phénomène directement lié à nos émissions de gaz à effet de serre qui était plus intense. Une artificialisation du territoire beaucoup plus importante. C'est là où on peut jouer sur cette artificialisation pour limiter l'exposition. Et deux, le système d'alerte. On peut avoir beaucoup de dégâts d'infrastructure. Si on a un bon système d'alerte, on n'aura pas de dégâts humains, pas de victimes. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut arriver à combiner sur un territoire pour se protéger et pour limiter et se protéger de ces événements.
Et soudain, la grêle. Août 2023.
Hey ! Aux prunes, je vais avoir plein de branches cassées.
Au départ, c'était un simple orage de grêle. Trois quarts d'heure plus tard, il était toujours là.
Le parasol y est tombé. On va avoir des branches, toutes les branches des pruniers vont être par terre. Hein. Ouais. Qu'il y en avait des fragiles.
Après, j'ai pas vu d'arrivée d'eau spéciale. Hein. J'ai l'impression que ça vient juste de la montagne.
Et... ouais. Ça passe sous la rocaille. Ouais. Oh là là, le déluge. Quand tu penses qu'on va avoir ça sans
là-bas,
arrêt,
je te raconte pas.
Il y a une branche par terre là-devant. Là.
Voire même un arbre. Et là-bas, c'est complètement inondé.
À quel endroit?
Le morceau de route. C'est qu'il y a une petite étang. Je crois qu'on va pouvoir mettre nos bottes et aller faire le tour des dégâts.
Oh là là là, mes pauvres pruniers. Peut-être tout va être par terre.
Ah ouais, pour le réchauffement climatique. Bonjour. Alors, tu peux nous dire ce qui se passe?
Eh bien, toute la montagne, elle nous dévale dessus. Et les égouts qui sont sous la maison, ils ne suffisent pas. Et l'eau ne sort que de ce côté, alors. Je suis obligée de faire là. Tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Eh bien, je pousse l'eau qui est dans tout le rez-de-chaussée. Heureusement, on habite à l'étage. Et toute l'eau des garages est arrivée devant la maison, là, dans l'entrée. C'est fatigant. Il y a eu des gros grêlons pendant une heure. Et maintenant, c'est la pluie, c'est l'orage. Mais là, ça ne veut plus couler, là. Les voisins, ça doit être pareil parce qu'ils ont un garage en contrebas. Ça doit être terrible aussi. Mais bon, ils habitent pas à l'étage. Heureusement. Ouais, là, il a trop plu, quoi. C'est pas possible. Normalement, il y a des gros tuyaux sous la terre. Là, on ne sait pas où ils sont. Ils sont peut-être bouchés. Voilà, bah, faut espérer que ça n'arrivera pas trop souvent, hein. Heureusement que j'étais pas toute seule, n'empêche.
On refait ?
Ouais, encore deux.
Ok. Donne-moi tout ce que t'as en tuyau.
Là, c'est pas un gros que vous voulez.
Donne le plus gros que t'as.
Non, mais c'est un long ?
Non, un gros.
Un gros ?
Mais ça va, c'est bien. Tout, donne tout ce que t'as.
Il est en train de prendre des tuyaux. Mmh. On les fait siphonner à l'intérieur.
Mmh.
Les gens
qui ont
fait la route,
ils vont être contents, ils peuvent revenir. Oh, on se croirait à la montagne, là. Regarde la cascade, là-bas. Regarde là-bas. Et mes brebis. Ah, ben, il y a une voiture qui s'est engagée dans la rue, route des forcés et elle a un pneu dans un trou.
Je viens de dire Leclerc inondé.
Le clair inondé, eh ben dis donc, là ça coule en cascade.
Inondé. Là dans ce maison en face, bah, tout clair inondé, le carton est arraché, le poteau arraché, les couvertures sont arrachées.
Pourquoi il est passé là? Je sais pas, il habite pas là maintenant. Pourquoi il est passé là? C'est son père. Hein. Il me dit plus, voilà.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la mairie, elle est ouverte là, toute une grosse partie de la nuit.
La nuit, d'accord.
Bon, mais si vous êtes au sec, restez au sec.
Oui.
Si c'est que du matériel, c'est bon, vous n'êtes pas blessé, ça va.
Non, ça va.
Vous êtes où?
De là,
non,
cette
d'accord.
maison. Bon.
Okay. Tout le sous-sol était inondé et bon. Toute l'eau de la colline est descendue.
Bon. C'est que le sous-sol?
Oui.
Ok. Vous n'êtes pas blessé, donc c'est le principal.
Non.
Après, on verra dans un second temps
oui,
le reste.
Dégâts.
D'accord.
Oui, pas de problème.
Là, il fait nuit, on est en train de dégager.
Oui, il faut faire le principal, oui. Vous allez la barrer après celle-là?
Ah ben là, elle est barrée. Ah, mais
d'accord.
Elle était barrée, sauf que le panneau est tombé.
Ah, mince.
Mon Dieu.
Ouais. Catastrophe. Oh là 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 là. Ah oui, là, franchement, jamais j'aurais pensé ça. Hein. Je me disais, ma maison, elle est en hauteur, mais tu parles, elle est en bas de la colline. Donc, Ah, ça y est, elle a réussi à l'enlever. Oh, c'est impressionnant, hein. Ça fait peur quand même, hein. Franchement. Et puis toile, le ciel est étoilé, on aura tout vu. On va avoir des étoiles filantes maintenant. Non, mais je rêve.
Alors, je veux bien un petit lexique là, sur les différents types d'orages.
Alors, du coup, les orages, donc il y a plusieurs types d'orages. Donc, l'orage de base, c'est l'orage monocellulaire. Donc, c'est un orage simple avec une seule cellule. Donc, c'est l'orage classique. On a l'orage multicellulaire. Donc, ça, c'est un amas de plusieurs cellules qui, du coup, se regroupent en un seul orage. Donc, la taille, ça peut être la taille de 2 à 3 villes. Donc, ça commence à être assez important. Après, on a le MCS. Alors, MCS, ça veut dire Mesocal Convective System. Ça, c'est un orage multicellulaire qui est vraiment très grand. Donc, sur la taille de 2 à 3 voire 4 départements. Donc, c'est quand même voilà, la taille d'une petite région. Donc, c'est quand même. Assez gros. Et enfin, le plus gros, c'est le MCC, donc c'est Mesocal Convective Complexe. Là, c'est un orage qui est géant et qui fait parfois la moitié de la France. Donc, c'est un énorme convectif souvent qui se forme en Espagne, vers les Pyrénées, qui traverse du coup Toulouse, la Bourgogne, mais c'est un temps qui finit après en Allemagne. Donc, c'est un orage qui est géant, comme une tempête en fait, une tempête d'orage, quoi. Donc, ça, c'est pour les orages en eux-mêmes. Après, il y a l'orage supercellulaire. Donc, supercellulaire, c'est un orage typiquement américain. C'est les orages qui effectivement tournent sur eux-mêmes, qui donnent les tornades, la grêle géante, et qui du coup arrivent de plus en plus en France, quoi. Voilà pour le petit lexique.
Mais les plus beaux, c'est...
Alors du coup, c'est les monocellulaires. Du coup, c'est les orages qui sont les plus isolés. Donc souvent, bah, quand il n'y a pas de nuages bas, pas de brouillard ou pas trop de pluie, bah, c'est très esthétique. Quand c'est un orage qui est très pluvieux, avec même plusieurs orages, bah, c'est très pluvieux, donc c'est peu esthétique, c'est compliqué à chasser. Donc c'est pas nos orages préférés, quoi.
Et ce, parce que souvent, en montagne, ils sont plus impressionnants aussi, visuellement aussi.
En montagne, il y a beaucoup d'orages qui souvent se forment du coup, bah, sur les reliefs. Les reliefs, c'est des aimants à orages. Donc il y a plus d'orages sur les zones de relief qu'en plaine. Mais forcément, comme c'est dans la montagne, bah, parfois le point de vue n'est pas forcément adapté. Donc il faut bouger, il faut se replacer. Parfois la montagne va cacher l'orage. Donc c'est des choses qui sont compliquées. Il faut être patient. Et surtout quand l'orage s'en va, bah, quand les routes ne sont pas très accessibles, on sait que l'orage, on ne pourra pas la rattraper, quoi. Donc en montagne, c'est des beaux orages qui sont esthétiques. Mais pour les chasser, il faut vraiment se lever tôt, être très, très patient ou avoir un peu un coup de génie pour faire la bonne photo, quoi. Malheureusement, les orages, plus ils vont être intenses, plus ils vont être forts, et moins ils sont esthétiques. C'est-à-dire que souvent, les orages les plus beaux, c'est ceux qui sont le plus faibles, parce qu'en fait, les précipitations parfois peuvent cacher les éclairs. Donc un orage qui va être sec ou peu pluvieux, les éclairs seront très bien visibles et sont souvent esthétiques. En revanche, un orage type supercellulaire, donc un orage américain qui est souvent maintenant de plus en plus en France, puisque les orages américains arrivent en France à cause du changement climatique, donc ces orages-là ne sont pas très très beaux à observer. Certes, ils ont des belles structures, mais au niveau de la foudre, c'est pas très prolifique. Donc malheureusement pour nous, chasseurs d'orage, plus l'année passe, et plus les chasses à l'orage sont pas forcément ennuyantes, mais sont moins intenses qu'auparavant, parce que les orages sont plus violents et donc moins photogéniques. Effectivement, j'en parle avec beaucoup de collègues dans le Lyonnais, dans le Bordelais, dans même côté de Marseille. On a tous le même constat. Les orages, il y en a toujours autant, c'est vrai, mais ils sont moins esthétiques et souvent ils sont très rapides, donc plus difficiles en fait, à chasser, quoi. Les régions où il y a le plus d'orages en France, bah, c'est le sud-est. Parce que sud-est, bah, il y a les massifs des reliefs. Donc il y a forcément d'un côté le Gard et les Cévennes. Donc c'est un peu un nid à orages. Et en France, là, le plus d'orages, c'est entre le triangle magique, entre Manosque, Pertuis et Mérargues. Donc c'est une zone où il y a beaucoup d'orages, puisque c'est très enclavé. C'est aussi une zone où il fait chaud. Donc les orages aiment la chaleur. Donc forcément, cette zone-là est très orageuse. Au printemps, il y a un orage tous les trois jours. Donc c'est une zone qui est très prisée par les chasseurs d'orages français. A l'inverse, la Bretagne, dans la France, comme c'est assez plat, il y a peu de relief, peu de montagnes, il y a très peu d'orages, sauf l'été ou un peu en début d'automne. Donc souvent, c'est plus côté sud-est. Donc Région Bacca, c'est une des régions les plus orageuses de France, avec les Pyrénées, les Alpes du Nord. Et les moins orageuses, c'est plus la Bretagne, la côte ouest et aussi le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Le climat change, donc forcément la chaleur remonte plus au nord. Donc à l'avenir, on aura assez qu'on aura peut-être plus d'orages côté lyonnais, côté Massif central et côté aussi Alsace. Peut-être moins effectivement côté Corse, parce que la Corse c'est une île. Aujourd'hui la Corse, les orages, il y en a de moins en moins. Donc ça, en fait, ça remonte de plus en plus au nord. Aujourd'hui on a vraiment une ligne orageuse entre la Valence, Lyon, très active, qui peut-être remontera encore plus au nord dans les années à venir, quoi.
They say
Le pire, ça serait de baisser les bras, finalement. Globalement, le contexte n'est absolument pas positif à tous les niveaux, ne serait-ce que le contexte international, aussi bien géopolitique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de conflits. Le contexte national est fortement tendu aussi, malgré tout. Hein. On a des oppositions. Et la question du changement climatique, c'est ça. Hein. On n'est pas dans un débat de société, on n'est pas dans un discours constructif. On est dans un discours plutôt d'opposition. C'est absolument pas porteur. Par contre, après, ben, de plus en plus de personnes sont mobilisées, de plus en plus de personnes sont conscientes de ces enjeux, ont envie qu'il se passe quelque chose sur les territoires. On a des politiques publiques, même si ce n'est pas toujours porté comme on le voudrait par les représentants, mais des politiques publiques, des plans qui sont plutôt pertinents, qui vont permettre de planifier des actions. On a beaucoup de choses qui sont très positives. Et on est moins pessimiste quand on est ou défaitiste ou quand on est dans l'action. Et effectivement, et ça c'est un vrai sujet, c'est comment justement on crée ces espaces où les gens, qu'ils soient dans une entreprise, chez eux ou ailleurs, ne se sentent pas impuissants vis-à-vis de ces enjeux. Aujourd'hui, on dit il ne faut pas avoir de discours alarmiste, catastrophiste, alors que quelquefois on montre juste des trajectoires climatiques observées sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne montre même pas le futur. Et déjà là, on a peur qu'on ait un discours catastrophiste. J'allais dire, sur certains autres sujets, je ne citerai pas forcément, mais on a le droit de parler d'ensauvagement toute la journée sans être catastrophiste. Et nous, on montre juste une trajectoire climatique et on va être tagué de catastrophiste. Après, souvent, la réflexion, elle est faite en amont. Mais comme nous, on intervient aussi de façon très territorialisée, donc on territorialise les trajectoires, on territorialise les enjeux, on parle aux habitants de leur territoire sur des sujets en fait, qu'ils ont déjà vus. Et donc, en fait, même si au départ, il y a une petite crainte d'un discours catastrophiste, en fait, on se rend bien compte que non, c'est un constat qu'on a tous. Et après, l'idée, c'est de ce constat, essayer de le caractériser, de le définir le mieux possible et de voir à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution. Donc finalement... Finalement, en fait, ne serait-ce que d'apporter un peu frontalement aussi ces enjeux, ne pas avoir peur des mots et de se servir. Hein. On n'est pas obligé de partir dans des élucubrations, mais on a beaucoup de données à nos dispositions pour voir où on en est, aussi bien en trajectoire qu'en termes d'impact. Ça permet de construire son territoire. Donc finalement, en fait, ce n'est pas la connaissance qui va renforcer l'éco-anxiété, c'est justement de ne pas savoir si ce qu'on dit est vrai, pas vrai, d'où ça vient. C'est les discours contradictoires, c'est les injonctions contradictoires. Elle renforce fortement l'éco-anxiété. Le sentiment d'impuissance renforce fortement l'éco-anxiété. Parler concrètement et factuellement des enjeux du changement climatique, ça ne renforce pas l'éco-anxiété, à mon sens. Par contre, ça peut favoriser la mobilisation. Et il faut trouver ces espaces de mobilisation pour réduire l'éco-anxiété. Le changement climatique va avoir des impacts sur quasiment toutes les franges, sur tous les écosystèmes, nos activités économiques, sur la santé des habitants. Ça en a déjà et ça va en avoir de plus en plus si on ne s'adapte pas. Et de toute façon, malgré tout, on va en avoir de plus en plus. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, oui, c'est que oui, dès aujourd'hui, il appuie là où ça fait mal. Il va appuyer les écosystèmes sous tension dégradés vont être beaucoup plus sensibles et vulnérables aux effets du changement climatique que des écosystèmes en bonne santé résilients. Donc voilà, ça, et les catégories, les inégalités sociales renforcent, sont un gros enjeu en termes de changement climatique. Il y a des différences d'exposition selon notre position sociale, nos revenus, selon notre âge, selon les comorbidités, et ça directement dans les effets. Donc ça, c'est des inégalités sociales. Elles ne sont pas forcément que financières, elles sont aussi de... Voilà, il y a beaucoup de catégories qui peuvent renforcer, être plus exposées aux effets du changement climatique. Et puis après, même au niveau, après une catastrophe, on n'a pas tous les mêmes solidités financières, le même accès au monde assurantiel, pas les mêmes soutiens familiaux, pas les mêmes soutiens économiques, pas les mêmes capacités à aller rechercher et de l'aide. Donc voilà, il y a beaucoup de différences. Et c'est pour l'instant, ces différences-là ne sont pas intégrées dans les transitions écologiques. Et puis après, l'autre point, effectivement, c'est que les solutions qu'on doit mettre en place ne doivent pas renforcer ces inégalités sociales. Ça, c'est un des points. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, c'est quasiment... La maladaptation, c'est une erreur. Donc, des solutions qui renforcent les inégalités sociales, c'est pas bon. Des solutions qui ont des trop forts impacts sur l'environnement, c'est pas des bonnes solutions. C'est pour ça que avoir des stratégies générales intégrées sur les territoires permettent, quand on déploie les actions, de plus facilement maximiser les co-bénéfices qu'on peut avoir d'une action sur l'autre. C'est-à-dire que je vais travailler, moi, dans une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, je vais transformer les mobilités. Mais si j'ai des stratégies intégrées, je vais voir que ça a des enjeux directs en termes de santé. C'est-à-dire moins de voitures, moins de pollution atmosphérique, moins d'accidentologie, moins de bruit, peut-être plus d'espace pour construire une ville différente. Donc j'ai moins de gaz à effet de serre, oui, mais j'ai des co-bénéfices directs. Et donc ça, c'est important de l'intégrer. Et si on n'a pas des politiques intégrées, ce n'est pas si facile. Donc d'où l'idée d'avoir des vraies stratégies, de comprendre pourquoi on le met en place, plutôt que des petites actions isolées les unes des autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Hein. Le temps est à l'action, ça permet de partager les expériences. Mais toujours avoir à l'esprit qu'il ne faut pas que ça renforce les inégalités sociales, qu'il ne faut pas que ça pèse sur les plus précaires. Si on a des transports en commun, il faut qu'ils soient plus efficaces, moins chers, moins polluants, accessibles à tout le monde. Là, on va avoir trois années successives qui vont être compliquées. Hein. Il y a les municipales, il va y avoir les présidentielles et il va y avoir les régionales. C'est-à-dire qu'on est à trois niveaux de compétences différentes. Et effectivement, nous, on travaille au plus proche des politiques publiques, donc il peut y avoir des changements. La sensibilité, les bords politiques peuvent changer les priorités d'un territoire, clairement. Et puis après, nous concernant directement en tant que fonctionnement, peuvent changer les priorités en termes de financement. On le sait. Donc oui, tout à fait. Les évolutions politiques, ça fait d'ailleurs partie des freins. Hein. Les mandats politiques, quels qu'ils soient, à tous les niveaux, peuvent donnent de la force ou affaiblissent certaines actions qui ont été mises en place. C'est pas forcément systématique. C'est une question qui, quand on travaille au niveau territorial, c'est des vrais enjeux de territoire. Et quel que soit le bord politique. Quand on a eu des inondations, quand on est très soumis au risque incendie, malgré tout, c'est des enjeux qui préoccupent quel que soit le bord politique. Après, effectivement, dans la prise en compte de ces enjeux, dans la mise en œuvre des solutions, dans la mobilisation qu'on va créer autour de ces enjeux, là, la façon de faire peut être très différente. Donc oui, les municipales, c'est très compliqué. Et puis après, il y a des périodes de réserve. Donc tout ce qu'on peut mettre en termes d'action sur les territoires, on n'a pas les mêmes capacités, les mêmes facilités à les mettre en œuvre. Et là, on va avoir 3 ans où on va avoir des périodes de réserve successives, des changements politiques potentiellement importants. Donc ça demande, à la fois dans les actions qu'on déploie et dans le financement de ces actions, ça va demander beaucoup de réactivité.
En fait, on vit cette semaine beaucoup d'intempéries et météo en France. On a effectivement des grosses crues, notamment du côté de la Gironde, bordelais, avec une vigilance rouge en cours. Effectivement, donc les tempêtes, comment elles se forment? Donc, c'est le fameux courant, le jet stream. Donc, le jet stream, c'est effectivement le courant qui un courant qui souffle en altitude, qui est assez fort, qui souffle de l'Amérique vers l'Europe. Donc, ce courant, cet hiver, est décalé plus au sud que la normale. Donc, souvent, il souffle plutôt côté Grande-Bretagne, côté Europe du Nord et côté nord de la France. Cet hiver, il est décalé plus au sud, donc il souffle plus vers la péninsule ibérique, donc côté Portugal, côté Espagne, côté Méditerranée. Et donc en fait, c'est vraiment un courant. À la fois, donc au nord de ce courant, il y a de l'air froid, au sud, il y a de l'air chaud. Et donc la rencontre entre l'air chaud et l'air froid va créer ce courant, va créer du coup ces dépressions. Comme les autoroutes vont se former parfois à l'infini, et depuis maintenant près de 2 mois, la France est soumise à ces intempéries-là, parce qu'on a un conflit thermique entre l'air chaud et l'air froid qui crée ces dépressions. Le jet stream les envoie vers la France, et là ça fait maintenant la 5e, 6e tempête en seulement 2 mois, et plus le courant va être fort, plus les tempêtes comme la tempête Nils du coup va être puissante, avec beaucoup de précipitations, beaucoup de vent, et aussi beaucoup de neige en montagne en fait.
Et là par exemple, Nils, vous lui courez après ou pas?
Vous la quoi?
Vous chassez?
Alors oui, je chasse, plus ou moins, en fait souvent moi je suis souvent plus à distance, c'est-à-dire qu'effectivement ça m'intéresse, donc je regarde un peu les radars, les satellites, les webcams, effectivement voir comment ça se passe, comment ça souffle. Donc c'est un peu une chasse à distance. C'est vrai qu'une tempête, c'est moins intéressant d'être sur le terrain qu'un orage. C'est moins photogénique. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est avalanche, crue, j'ai toujours ça dans mon bureau, je suis à de près grâce aux webcams, grâce aux revues de Vigicru. Donc c'est un suivi constant, parfois même jour et nuit, tant que les intempéries sont là en France.
Et là, c'est quoi le pronostic pour la suite de Nils?
Alors effectivement, donc Nice est passé donc, déjà il y a deux jours. Là, on est sur la tempête, sur la suivante, je crois que c'est Lara, il me semble, de nom. Donc c'est une autre tempête, encore une autre, qui est en train d'arriver sur la France. Et à partir de la fin de semaine, donc ça va enfin s'améliorer. À partir du 21 février, on a le retour des hautes pressions. Donc enfin, la fin de ces intempéries. Donc pendant moins une semaine, il devrait faire beau. Donc du 21 au 28 février, on va avoir un temps sec, anticyclonique et ensoleillé. Donc ça va faire du bien à tout le monde. Et surtout, on pourra enfin sécher pour au moins une petite semaine sur la France. Ouais.
Grande histoire et petite question, une émission en mer. Petite histoire et grande question.
Et sur Terre.
Alerte.
Alerte, météo Terre. Alerte, météo Terre. Ha, ha, ha. Alerte, météo Terre. Alerte, météo Terre.
Vous avez entendu Alerte Météo Terre, le bulletin orageux. Pour retrouver les émissions précédentes d'Alerte Météo Terre, rendez-vous sur canalb.fr, sur la page de l'émission. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.